Vous écoutez le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Trèfle. Alors, à l'heure où on enregistre, les Celtics sont premiers de la Ligue, 29 victoires pour 8 défaites, 4 matchs devant les Bucks qui sont deuxièmes de la Conférence Est, toujours invaincus au TD Garden, 18 victoires, 0 défaites, on peut dire que tout roule pour l'équipe. Parce que ce serait trop facile de faire des épisodes pour dire que tout va bien, on a décidé au Trèfle de ne pas parler directement du collectif, mais plutôt de nous concentrer sur chaque joueur individuellement pour pouvoir aller un peu plus en profondeur sur ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins sur chaque joueur. Alors, pour m'épauler dans cette tâche, j'ai avec moi le duo de choc, les deux meilleurs recrues de la dernière off-season, les Kristaps Porzingis et Jrue Holiday du Trèfle, j'ai nommé Azad et Vincent. Comment ça va, les gars?
Écoute, super. Je prends le rôle de Kristaps et je laisse à Vince le rôle de Jrue Holiday, parce que c'est un peu plus notre ancien, c'est un peu plus lui qui va nous amener au titre, au final, vu que Vince connaît déjà la route. Mais en tout cas, pour ma part, tout va très bien.
Bah moi, j'aime pas, non, je pars où, je roule. En plus, je porte pas de bandeau. Non, ça va très bien, ça va très bien, les gars.
Bon, on vous laissera débattre plus tard de qui est qui. En tout cas, pour ce premier épisode, enfin, cette première partie de l'épisode qui sera découpée en deux parties, donc, on va vous parler de certains joueurs. Je vous spoil pas, parce que ce serait pas fun. On va commencer avec peut-être la plus belle surprise, enfin, qui n'est plus une surprise, parce qu'on commence à avoir l'habitude. J'ai nommé Derrick White. Encore une magnifique saison du divin chauve, on peut l'appeler comme ça, qui est chauve maintenant. Azad, qu'est-ce que tu penses de Derrick White cette saison?
Beaucoup de bonnes choses. J'en ai même écrit un article au final sur QI Basket, parce qu'il y a plein de petites choses, et je pense qu'avec Vince, on est assez aligné là-dessus. En fait, Derrick White, c'est le roi des petites choses. Et on dit souvent que le diable est dans les détails, et Derrick White, il est vraiment doué en fait pour faire toutes les petites choses qui fait qu'une action ou qu'un match dans son entièreté va bien se passer, parce qu'il fait toujours les bonnes lectures, il fait jamais le geste de trop, et en plus il a énormément de qualités qui sont très fonctionnelles dans la manière où Boston joue au basket. Et du coup, ça a été vraiment peut-être derrière Tatum, ça a peut-être été le meilleur joueur sur le début de saison. En tout cas, c'est le joueur qui, quand il est sur le terrain, l'équipe tourne le mieux. Donc souvent, pour regarder ça un petit peu, on a des stats de on-off qui sont disponibles en NBA. Donc en gros, c'est la différence entre les moments où Derrick White était sur le terrain et s'il n'est pas sur le terrain. Et on peut comparer un petit peu l'efficacité globale collective de l'équipe. Donc en gros, ça permet pour des joueurs qui ont des gros minutages en NBA d'avoir une idée un petit peu de l'impact en fait qu'ils ont sur le collectif de l'équipe et les performances. Et le différentiel, celui qui a le plus gros différentiel de on-off, donc celui qui a un impact le plus positif parmi tous les joueurs des Celtics, c'est Derrick White cette saison, avec plus 14 points de différentiel par 100 possessions. Donc ça avait beaucoup de chiffres d'un coup, mais en gros, pour le comprendre simplement, ça veut dire que les Boston Celtics, quand Derrick White est sur le terrain, ils mettent 14 points de plus par 100 possessions que leur adversaire, comparé au moment où il n'est pas sur le terrain. Et c'est le mec qui a le plus gros différentiel parmi les Celtics, et c'est même un des plus gros différentiels en NBA. Il est un peu dans la sphère des Curry et des Jokic en termes de on-off, donc c'est un bon moyen de comprendre un petit peu son efficacité en termes collectifs. Et moi, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup pour ça, c'est pour l'impact qu'il a au niveau du collectif et en fait ce rôle de connecteur, fluidificateur en attaque, mais aussi en défense, où il est vraiment capable en fait de combler les brèches, de défendre plus grand que lui, et du coup d'offrir toute la flexibilité dont la défense de Boston a besoin autour de Porzingis. Par contre, des petites choses que j'aimerais souligner, et je ne sais pas si Vince et toi vous serez d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que petit à petit, son shooting est en train de redevenir normal, entre guillemets. C'est-à-dire que là, depuis le début de saison, il shootait un peu comme Stephen Curry, alors que c'est clairement pas son niveau, entre guillemets, à 3 points. Jusqu'à cette saison, il n'avait jamais tiré à plus de 40% à 3 points. Et là, je crois que sur le début de la saison, il était à 43% à 3 points, alors qu'en carrière, il est plus entre... il y a des saisons à 31%, d'autres saisons à 38%, mais bon, c'est pas un shooter élite. Et jusqu'à maintenant, il jouait comme un shooter d'élite. C'est en train de redescendre petit à petit. Je pense qu'il fallait s'y préparer, mais il va falloir voir comment il arrive à continuer à apporter autant au collectif en rentrant un peu dans le rang en termes d'efficacité au scoring, en particulier au shoot. Mais d'un autre côté, Derrick White, on n'attend pas de lui que ce soit un All-Star, on n'attend pas de lui que ce soit un mec sur pull-up à 3 points et que ce soit un shooter d'élite. On attend de Derrick White qu'il fasse toutes les bonnes petites choses. Donc en fait, Derrick White, au fur et à mesure de la saison, quand son shooting va redevenir entre guillemets normal, il va juste ressembler à Derrick White et c'est déjà vraiment très cool.
Ouais, je suis d'accord. ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter. Hein. C'est début de saison presque border perfection, quoi, en fait. Mm-hmm. Alors effectivement, le scoring, il était indécent. Là, parce il va juste devenir excellent.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'il était là jusqu'à. Moi, j'ai bossé hier soir, donc j'ai pas le match de cette nuit en tête. Là, nous, on enregistre après le match de contre les Wolves. Il était à 110 de true shooting plus. Donc, le mec était à plus de 16 points avec une efficacité de dingo. Toujours hyper propre avec plus de 5 passes décisives, moins de 2 pertes de balles par match. Donc, c'est vraiment. Pour moi, c'est le. Ouais, je pense que c'est le meilleur role-player de la ligue. Assez nettement, en fait. Assez nettement. Alors même role player, ça serait limite, c'est peut-être limite insultant pour par rapport à tout son apport en fait. C'est un mec en plus qui est tout le temps là. Les seuls matchs qui comptent, c'est quand il a des enfants.
Ouais, c'est ça le truc en plus, justement. Azad, tu disais peut-être All-Star, peut-être pas All-Star. Est-ce que tu penses, Vincent, que parce qu'il y a quand même beaucoup de débats en ce moment sur Derrick White All-Star, est-ce que tu penses qu'il peut mériter une sélection star à la Draymond Green ou à les
en fait
à la star, mec comme ça?
C'est pas ma tasse de thé, l'All-Star Game, mais par rapport à son impact, largement. Après, est-ce que le All-Star Game récompense les vrais bons joueurs de basket? Rien que sur ses on-off, pour moi, il mériterait largement. Après, à mon avis, il sera appelé s'il y a 3 forfaits et tout, par rapport au système de vote. Je pense que les coachs, au bout d'un moment, pourraient éventuellement récompenser et envoyer 3 mecs de Boston. Après, son impact, ça fait 2 ans. Que c'est le deuxième joueur le plus important de Boston dans son impact, sans vouloir critiquer éventuellement Jalen Brown par rapport à tout, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'en fait le mec il est tout le temps là et toutes nos métriques qu'on a, qui les all-in one et tout, il est tout le temps top 25 NBA quoi, ce mec là et en plus il défend tellement bien encore cette année. Il est encore toujours un des meilleurs contreurs. C'est quand même un des rares arrières qui peut avoir un peu de protection d'arceau, tellement il a un timing de fou furieux, les contreparts derrière et tout. Je le trouve vraiment un fan favorite, un chouchou vraiment excellent. Et en plus, on parle de fluidificateur et tout. Je trouve que quand il joue avec la seconde unique, quand il joue avec des cornettes et tout, c'est un mec qui va pouvoir gérer un peu de pick and roll. En fait, ce que j'adore par-dessus tout, c'est que tous les soirs, on va lui confier une tâche qui peut être un peu différente. Et tous les soirs, il est entre bon et excellent dans cette tâche-là, avec un rôle qui peut varier un peu, parce que des fois, il va avoir plus la balle, s'il y a un absent ou deux. Lui, il est tout le temps là et il remplit le rôle. Très souvent, à minima, il est très bon. Et tu vois, même si le shooting, il redescend, c'est un mec qui apporte tellement de choses à côté. Voilà, le côté connecteur, la défense, de faire peu d'erreurs, que c'est un mec qui est toujours positif. C'est certainement pour ça que ces on-off, ils sont toujours exceptionnels, en fait. Enfin, depuis qu'il est chez nous, en tout cas. J'ai pas regardé
ouais,
avant.
Donc vraiment un role-player parfait, quoi. C'est ce qu'on peut en dire. Donc, personnellement, je pense fort à Romeo Langford et au swap 2028. Azad, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur Derrick White.
Ouais, je pense que même si son shooting, on veut pas en faire une trop grosse part de l'importance que ça peut avoir plus tard, je pense que dans des situations de play-off, il faudra vraiment qu'il soit en confiance avec son shooting, parce que c'est là où on avait eu un problème en 2022, où il était un peu ignoré justement sur son shoot, parce qu'il n'était pas en confiance et qu'il les prenait pas, et ça nous avait un peu porté... a porté préjudice pendant les playoffs 2022, et alors qu'en 2023 il était beaucoup plus en confiance avec son shoot, et ça s'est vu dans l'optimisation du spacing. Là, cette saison, il tourne à 37% sur les pull-ups. Bon, ça va redescendre, c'est sûr et certain. Mais c'est son catch and shoot qui est à 43% sur plus de 4 tentatives. C'est une des meilleures marques de la NBA. Et s'il arrive par contre à garder son catch and shoot, c'est vraiment formidable. La capacité sur pull-up, ça va pas vraiment apporter parce que je pense pas qu'il en aura trop à prendre et ça va être plus à la marge. Donc s'il les met, tant mieux, mais s'il les met pas, ça fait partie du jeu. Les catch and shoot, s'il arrive à rester à une telle efficacité autour des 40%, ça peut être vraiment un game changer dans les minutes où en playoff, les équipes vont vouloir commencer à essayer un petit peu de trouver des parades à l'attaque de Boston en laissant des joueurs de côté ou en adaptant un petit peu ses schémas défensifs. S'ils ne peuvent pas laisser Derek White tout seul, ça va vraiment continuer à optimiser le spacing qui est vraiment formidable cette saison du côté des Celtics. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'importance de son shooting et à quel point, en réalité, ça fait qu'il est d'un role player parfait à un role player encore plus que parfait, voire élite, presque créateur tertiaire. Donc voilà, comme pour le shooting, je pense que c'est vraiment un truc qui sera un petit peu à monitorer tout au long de la saison.
Ok, bon bah on retient ça pour Derek White. Attention au shooting, notamment en playoff. C'est vrai qu'on a les souvenirs de sa première série de playoff en 2022 où ça pouvait être compliqué de le voir pas du tout en confiance. J'espère que ça se reproduira pas. On va passer au deuxième joueur. Bon là, on le présente plus. On parlait d'All-Star, lui c'est sûr, hein, le fameux Lamar Stevens qu'on a beaucoup vu. Non, je rigole. Honnêtement, on n'a pas grand-chose à dire. Je sais pas si vous avez quelques trucs. On l'a vu par tout petit moment, notamment, je pense, pour son intérêt défensif, un peu agressif, très très physique, on va dire. Je sais pas si vous en avez quelque chose à dire, vous les gars.
Je sais pas vraiment si j'ai quelque chose à dire sur sa saison à Boston, mais c'est vrai que le joueur théorique dans l'idée, moi j'aimais beaucoup comme partenaire un petit peu de short roll en fait en attaque, déjà même si c'est sa défense qui va le faire un petit peu le plus joué. Moi ce que j'aime bien c'est sa capacité en fait de jouer un petit peu plus grand aussi en attaque et en fait où il peut venir directement poser des écrans et apporter un petit peu de mouvement, surtout que c'est un très bon passeur, il lit très bien le jeu, donc je pense qu'il pourrait apporter un peu du liant en attaque. Là où parfois nos intérieurs remplaçants ils sont un peu plus rustres en termes de passing et en termes de mouvement, disons. Et en plus, sur des 5 en switch all, je pense que il pourrait vraiment être intéressant à utiliser un peu plus. Mais pour l'instant, l'équipe tourne tellement bien, en réalité, que je ne pense pas qu'ils aient eu besoin de l'utiliser ou de tenter des choses avec lui. Mais c'est vraiment un joueur que j'aurais un peu... En fait, j'aurais aimé le voir un peu plus, mais d'un autre côté, ça tourne tellement bien que ce n'est pas très grave qu'il n'ait pas de minutes.
Moi, si tu veux, c'est un peu ma déception, justement, comme toi, de ne pas le voir plus. Parce que là, c'est 72 minutes hein, depuis le début de l'année. Et pour moi, il y avait duel avec Brissette, en fait, au départ. Pour moi, à l'intersaison, il y avait duel entre ces deux mecs-là. Et dans mon esprit, il était plus sûr, plus fiable. L'an dernier, il joue quand même plus de 1000 minutes dans une équipe de Cleveland compétitive. Donc, c'est un mec qui a un intérêt sur un terrain, je pense. Et je comprends pas pourquoi, clairement, il est passé. Je pense que c'est quasiment le dernier de la rotation à l'heure actuelle. Et j'imagine qu'à l'entraînement ou pendant le training camp, il a pas dû donner satisfaction. Hein, parce que, clairement, Brissette a des bouts de match, a des bonnes minutes sur quand il y a des absents et tout. Alors que lui, vraiment, vraiment rien du tout. Je pense que c'est vraiment, à l'heure actuelle, le dernier jour de la rotation. Et je suis un peu déçu parce que je pensais qu'il était suffisamment bon. Spécialiste défensif assez polyvalent pour se faire un bout de place à la Brissette, entre guillemets, à la Brissette en ce qu'il est en train de faire, mais a priori c'est pas le cas. Moi je suis pas convaincu qu'on le voit beaucoup cette année.
Ouais, donc en fait concrètement on est en train de se plaindre que l'équipe est trop forte et quoi, du coup on peut pas voir les joueurs de fin de banc, c'est ça que je comprends bien.
Les mecs imblairables.
Non mais c'est vrai que ce que tu dis c'est vrai Vincent, j'ai l'impression que même en garbage time au final on le voit très peu. Il fait au final, il n'est pas devant les Brissett, les Benton, tout ça qu'on voit quand même un peu plus. Je pense que bon, il a été son contrat n'était pas garanti. Hein. Il a été garanti là il y a une semaine environ, je dirais. Donc c'est plutôt pour préparer un potentiel trade que vraiment pour lui pour un gage de confiance de l'équipe envers le joueur. Mais donc oui, c'est vrai que comme disait Azad, moi c'était un profil que je trouvais intéressant à Cleveland, qui avait un peu des hauts et des bas, mais qui pouvait apporter quelque chose. Après, on a le luxe de ne pas avoir à le développer, à l'utiliser. Franchement, ça me dérange pas non plus. Hein. On a une rotation parfaite, ou presque. On va pas se plaindre de ça. On passe au suivant, qui va être un petit peu plus intéressant, qui a vu ses minutes quand même drastiquement augmenter depuis cette saison. Donc, je nomme Luke Kornet, Azad.
Moi, je suis pas un grand fan. Mais il faut bien avouer qu'il y a quand même beaucoup de raisons de l'aimer. Déjà, le personnage est quand même assez cool et je trouve qu'il s'intègre très bien dans ce qu'on attendait de lui en termes de personnalité et un petit peu de vestiaire. Et je trouve qu'on avait un peu peur, je pense, à tort l'année dernière, enfin cet été, de voir le départ de Marcus Smart et Grant Williams avec Blake Griffin aussi, qui est plus là, et de se dire, ah ouais, peut-être que l'équipe, elle va perdre un petit peu de son cachet, de son enthousiasme en tout cas. Et moi, je trouve qu'une des réussites un petit peu, disons, en termes de management d'hommes, c'est la relation qu'il a avec Keta, où ils se battent pour des minutes, ils ne jouent pas les mêmes match-up, ils jouent pas, mais ils jouent le même poste en fait. C'est juste que les deux ne peuvent pas jouer en même temps. Et ils jouent vraiment ce rôle de pivot remplaçant, mais en fait, ils sont même pas remplaçants officiels, ils sont remplaçants selon les blessures et les match-up. Et du coup, là-dessus, je trouve qu'il s'est vachement bien intégré. Par contre, en termes de ce qu'il apporte sportivement, c'est vrai que, bah, en termes de défense de drop, je trouve pas que ce soit un très bon défenseur sur drop. Je suis pas un immense fan de sa protection de cercle. Enfin, pour moi, elle est pas impressionnante. Mais d'un autre côté, il handicape pas l'équipe. Il permet en plus un petit peu, bah, du coup, d'utiliser. C'est un bon screener quand même. Donc, il permet d'être utilisé quand même un peu en créant du lien dans l'attaque sans avoir à toucher le ballon. Il sait aller chercher ses rebonds au bon moment, aux bons endroits. Et en plus, il a un tout petit shoot, mais il l'utilisait quand même beaucoup à 3 points à son époque de New York, par exemple. C'est assez drôle, sur ses premières saisons à New York, deux tiers de ses tirs venaient du 3 points. C'était une sorte de Luke Kornet. Et alors que maintenant, plus du tout, maintenant c'est 92% de ses tirs qui viennent du cercle. Donc vraiment, il est plus du tout utilisé pour son tir. C'est un des joueurs les plus efficaces de la NBA cette saison, mais en même temps, les volumes sont faméliques. Mais je suis pas fan. Je sais pas exactement s'ils pourront le faire jouer en playoff. Mais en tout cas, pour une rotation de saison régulière en complément, qui en plus sait être utilisé que quand on a besoin de lui selon les match-ups et qui, quand il joue, il le joue à fond. Bon, bah, c'est pas si mal. Mais clairement, j'aimerais bien peut-être qu'on développe un peu plus les minutes de Keta et que, quitte à avoir au moins un joueur en développement, peut-être plus à appuyer là-dessus. J'espère qu'il va pas boucher le développement de Keta, même s'il n'y a pas énormément à développer non plus. Mais voilà un petit peu mon ressenti sur Luke Kornet.
Moi, je suis un grand fan. Moi, je suis un très grand fan du personnage, t'en as parlé, mais non, je suis un grand fan. Moi, Kornet, pour moi, c'est le troisième pivot. Pour moi, il est devant Keita. Ce Keita, quand il a joué, ouais, c'est quand il s'est blessé. Donc, en fait, dans les faits, je pense que Mazzulla, il a confiance en Kornet. Ça s'est développé depuis l'année dernière parce qu'il sait ce qu'il apporte. Je le trouve assez régulier dans ses performances. Alors moi aussi, hein, j'ai pas réinventé Kornet. Je trouve que quand il défend, des fois il finit derrière le panier, ce qui est quand même pas pratique. Pour... Des fois, il participe pas, quoi. C'est bon. Mais je trouve qu'il y a tout le temps une vraie intelligence de jeu, notamment en attaque et tout. Ça role, plutôt très combatif au rebond. À une époque, je pense les premières minutes que j'avais vu jouer avec nous, je le trouvais tellement soft au rebond et tout. J'avais l'impression qu'il avait des mains de beurre, qu'il n'avait pas attrapé la balle. Je trouve que vraiment il est devenu sûr, limité. Mais sûr, Et t'en as parlé, mais moi je faisais partie de ceux pendant le podcast cet été, j'avais cette peur de ce côté un peu rigolo qu'avait Grant Williams du vestiaire. Le mec est hyper sain, on sent qu'il est juste content d'être là, qu'il a l'air d'avoir une bonne relation mais avec tout le monde. L'autre jour la petite séquence avec mais franchement on est dans un moment du match où on mène de 5 points sur un gros match et tout, on n'a pas mis un lancer franc. Le mec, je trouve que, et d'une ça me fait rire. Et de deux, je me dis, mais je sais pas, il a chauffé les gars, et enfin, je sais pas. Je pense que l'année dernière, il avait déjà eu des petites sorties comme ça, où je sais pas, il avait fait l'oiseau, je sais plus quoi. Enfin, ouais. Le mec a l'air d'avoir une personnalité loin d'être bête. Parce que même dans son jeu, on sent que le mec fait pas n'importe quoi. Oui, il va pas vite, mais il est grand. Je pense qu'il apprend au fur et à mesure des années à utiliser sa taille, sa carcasse, et franchement, troisième pivot, au salaire minimum. Ben, est-ce qu'il y a beaucoup dans la ligue des mecs qui sont bien meilleurs que Cornette dans ce poste-là, dans ce registre-là? Je suis pas convaincu. Franchement, je pense qu'il y a plein d'équipes qui rêveraient d'avoir Cornette qui aimeraient avoir Cornette en troisième pivot comme ça. Donc vraiment, moi aujourd'hui, j'ai souvent parlé de quel est le rôle du mec qu'on parle, parce que forcément, je vais toujours juger le mec par rapport à ce qu'on attend de lui en début de saison. Et Cornet, de toute manière, on attendait pas Monts et Merveilles, mais les minutes qu'il donne, elles sont rarement catastrophiques. Voilà.
Ok, je suis plutôt d'accord avec Vincent, j'irais même jusqu'à dire en fait que dans la situation où, par exemple, Horford se blesse en playoff. Je pense pas que ce soit une catastrophe, parce que là, on a Keita, on n'en parlera pas aujourd'hui, on en parlera la prochaine fois. On a Keita et Cornet, et je trouve que, bon, c'est pas à leur force, ils ont pas le même jeu et tout, mais ce sera pas catastrophique dans le sens où c'est pas ça qui va déterminer si on gagne le titre ou non. Et donc, à ce moment-là, notre troisième et quatrième pivot, on puisse lui faire confiance comme ça, je trouve qu'il s'entend, comme tu dis Vincent, très bien avec les gars. Je trouve qu'il y a une bonne synergie avec Tatum, il joue pas mal avec lui avec la seconde unité. Donc moi je suis plutôt satisfait, et d'ailleurs il a des très très bonnes mains, ça c'est tout bête, hein, mais il attrape très bien le ballon sous le panier, et c'est pour ça aussi qu'il a une très bonne efficacité, c'est que il est en bonne condition pour mettre la balle dans le panier en layup ou dunker, et ça le rend efficace en fait tout simplement, et il y a peu de déchets avec lui, donc même si des fois il sert pas à grand chose, il est jamais catastrophique et il nous fait jamais perdre vraiment de possession, de match bêtement. Donc je trouve que c'est tout ce qu'on peut demander de lui, comme tu dis Vincent, par rapport au contexte et à sa position dans le roster, c'est largement satisfaisant quoi.
Petite anecdote, hier soir j'ai fini mes notes par une perle. Peut-être j'étais un peu loin, on va pas se mentir, je suis pas convaincu de mon objectivité la plus totale sur le cas. Mais je pense que le mec est vraiment attachant. Et franchement, c'est important, je pense, dans une fin de rotation, les saisons est longue, je suis sûr qu'un mec comme ça. D'ailleurs, qui en parlait en interview, mais qui en parlait justement, qui disait que avoir des mecs comme ça, c'était important dans un groupe.
Bien sûr. Mais je pense que parfois, nous, de loin, derrière nos écrans, on théorise parfois un peu trop ce qui se passe sur le terrain, en oubliant qu'en réalité, ça reste des êtres humains, et que les 48 minutes du terrain, c'est celle qu'on cristallise et qu'on analyse le plus. Mais en réalité, c'est une fraction de seconde sur une saison, en fait. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors du terrain qui permettent, en fait, que ce que nous, on analyse et aille dans un sens ou dans un autre, mais en réalité nous on juge un petit peu en fait on juge le magasin par les articles qu'il y a dedans, mais on sait pas tout ce qui se passe en stock, on sait pas tout ce qui se passe au niveau managérial, on sait pas tout ça, donc clairement on a une partie un peu biaisée de notre analyse parce qu'on se concentre que sur ce qui se passe sur le terrain, et il faut bien avouer que on a rarement entendu parler d'une équipe qui allait très très loin avec que des mecs qui voulaient se mettre sur la gueule.
Alors, sur cette magnifique analogie du magasin, on va passer au prochain joueur. J'aurais pas pu faire mieux, c'est magnifique. On va parler de Pritchard, ton joueur préféré. On enchaîne dans la Z. Tous tes joueurs préférés. Il y a une petite. Quelque chose en commun, je le dirai pas à l'oral, mais on se comprend. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Pritchard? Je sais que tu as été un peu convaincu ces derniers temps, si c'est le mot.
Convaincu, c'est un peu fort, je pense, comme terme. Mais il faut bien avouer que c'est en gros c'est le bon, moi en fait je le vois comme le gars de Joe Mazzulla. Je pense que Joe Mazzulla il se voit à travers Peyton Pritchard, un mec qui a pas vraiment de talent par rapport au, mais qui est vraiment un chien de la casse et qui
la
va se battre sur
méchanceté.
Non mais c'est vrai, le mec il y a pas vraiment, pour un meneur de jeu il a
ah,
pas
il
de
tire bien
passing.
Quand même,
oui il tire bien, mais tu vois pour un meneur
c'est
de jeu
pas
il
le
a
cas
pas
de
de
Joe Mazzulla.
passing. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, si vous voyez, il doit se voir, il doit se dire, putain, si j'avais bossé mes shoots à l'époque, j'aurais pu avoir la carrière de Peyton Pritchard. Et c'est un joueur qui a un gros moteur. On peut lui faire beaucoup de reproches à Peyton Pritchard, mais c'est un joueur qui a un immense moteur et qui est sur tous les ballons. Et je pense que, bah, du coup, on avait un peu besoin de ça parce qu'on a un peu perdu le moteur principal l'été qui vient de passer. Et ça, c'est, pour moi, c'est une bonne chose quand tu es un joueur de rotation qui sort du banc d'apporter ça. Il a gagné en minutes. Il a enfin les minutes qu'il rêvait d'avoir. Enfin, qu'il rêvait d'avoir, peut-être pas, mais il joue au moins autant que quand il était rookie. Donc ça, c'est plutôt positif. Et il y a même des cartons entiers. Et moi, c'est un peu ce match-là où j'ai réalisé que il avait une certaine utilité dans la rotation. C'est le match contre OKC où en fait ils jouent les 12 minutes du dernier carton. Et ils ont arrêté de faire jouer Jrue Holiday en fait. Jrue Holiday s'est fait matraquer par SGA. Ça arrive à des gens très bien, mais il faut dire les termes. Jrue Holiday, il s'est fait fumer par SGA. C'était
ça n'arrive
terrible.
Pas à Jason Tatum. Hein. Donc
oui,
on en tire les conclusions qu'on veut.
On tire les conclusions qu'on veut. Justement, dans le dernier carton, ils ont mis Tatum sur. Ils ont mis Tatum sur SGA. Et en fait, Peyton Pritchard, il était plutôt cantonné sur Giddy. Mais Giddy a plus vraiment la confiance pour attaquer ballon en main. Et c'est Peyton Pritchard, il a un corps suffisant pour pas être vraiment un mismatch face à un attaquant comme Giddy. Et sa synergie est plutôt bonne avec les gars du 5 de départ aussi. Donc, entre son moteur, le fait qu'il soit capable de jouer les minutes qu'on lui demande quand bah, il y a des moments où, en fait, dans la construction théorique de l'équipe, on a plus besoin d'un spot-up shooter que quelque chose d'autre, il le fait très bien. Et il a une très bonne synergie avec les gars du 5. Donc, c'est pas un leader de banc, c'est pas Malik Monk, tu vois. Mais en tant que spot-up shooter à côté des stars du 5, ben, ça fonctionne plutôt bien. Et il faut avouer que lui aussi a des on-off plutôt positifs. Donc c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il s'intègre bien dans ce rôle-là. Et en plus, il peut jouer à côté de Derek White et à côté de Jrue Holiday. Donc voilà, il faut rendre à Payton ce qui est à Payton. C'est toujours pas un joueur que j'aime voir avec le ballon dans les mains comme porteur de balle. Mais en option de bout de chaîne et en défenseur aussi des lignes arrière, ça fonctionne correctement. Et en plus, voilà, c'est un bon shooter à 3 points et il peut quand même punir sur ces moments-là. Donc ça reste très utile autour de gros drivers comme les Jay ou même comme Jrue Holiday et Derek White.
Ouais, on a entendu que le mec n'avait pas de talent quand même, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Non, je vais vous couper parce que je suis poli, mais.
Il n'a pas de talent de création. Voilà, ouais, si jamais on pourra le rajoutera au montage, il n'a pas de talent de création.
Franchement, il revient d'assez loin, Peyton Pritchard, quand même. L'an dernier, il est victime de la. Bah du fait qu'on ait un backcourt de fou furieux en termes de quantité notamment, donc il joue quasiment pas, elle est quasiment sacrifiée sa saison. Il signe sa prolongation cet été et le début de saison est vraiment super délicat au shoot et donc du coup c'était assez compliqué en début de saison. Et moi je trouve que sa maladresse il l'a énormément compensé par d'énormes efforts en défense, notamment les pressions tout terrain et tout. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Une grosse présence au rebond en début de saison également. Je trouvais que c'est même toujours le cas. D'ailleurs, c'est assez cool, je trouve. Et je trouve qu'il a une propreté. Alors, c'est pas la création, mais dans son passing, c'est un des joueurs de la NBA qui a un ratio assist par perte de balle. C'est un des meilleurs de NBA, en fait. Je crois qu'il est quatrième ou cinquième avec un ratio de 4,91 passes décisives par perte de balle.
C'est facile quand tu joues avec Porzingis, Tatum et Jaylen Brown.
Mais super. Bah, donc, en fait, c'est le bon joueur. Enfin, ça reste le huitième. Alors, je reviens avec mon rôle. le mec, c'est le huitième homme de la rotation en termes de minutes et tout, en termes de rôle. Donc en fait, bah, il fait ce qu'on lui demande. Je trouve que c'est quand même un profil qui peut prendre feu à 3 points. C'est-à-dire que c'était catastrophique en début de saison. Il est remonté à 38% en ce moment environ, 37-38%. Sur les 15 derniers matchs, c'est du 44% environ. Donc c'est quand même un mec qui peut avoir un profil à un moment un peu dynamiteur, un peu de voilà qui va enchaîner 3 gros 3 points et tout. Donc c'est quand même quelqu'un qui peut servir. Moi j'aime bien, sans être ça reste quand même hyper limité comme joueur. Je sais pas, est-ce que c'est pas un mec qui devrait regarder des vidéos de TJ McConnell en permanence? Alors je compare pas, donc, tu vois, dans l'esprit ouais, de ce qu'il devrait devenir, de ce qu'on voudrait qu'il devienne. Ça, j'allais dire, il reste jeune dans la ligue, mais il doit être très vieux en plus. Mais voilà. Donc au final, il revient d'assez loin. Ben il est là. C'est le seul joueur de l'équipe qui a joué tous les matchs. Donc c'est un mec qui est tout le temps là. Comme tu dis, ça doit être le gars de Mazoula, effectivement.
Ok, bah écoutez, moi je suis plutôt d'accord avec vous sur les. C'est pas le joueur que je préfère dans l'équipe, clairement. Il m'a toujours un peu énervé. Mais c'est vrai qu'il a fait pour moi une bonne saison là. Il est efficace dans ce qu'on lui demande de faire. Je pense que, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, j'en reviens à la même conclusion. C'est merci Brad Stevens, quoi, qui nous construit un roster quand même très très bien réfléchi. Bon, là c'est Danny Edge qui l'a drafté en l'occurrence, mais enfin Danny Edge, sûrement son fils qui l'a drafté, mais bref. Et donc voilà, dans le roster actuel, franchement, il a son rôle, il le remplit très bien. Ouais. Moi j'aimerais effectivement le voir un petit peu plus fou, on va dire ça comme ça, défensivement, comme tu dis, le profil TJ McConnell un peu plus destructeur. Je trouve qu'il le fait pas assez. Après, je comprends aussi qu'il a peut-être peur de faire des bêtises et au final de perdre ses minutes parce que il perd la confiance du coach. Donc voilà, c'est des détails, mais je pense qu'il est jouable en playoff, pas 20 minutes, 22 minutes par match comme il joue actuellement, je sais plus exactement, mais il est jouable en playoff sur certains match-up. Il y a certains matchs où il en jouera beaucoup plus que d'autres. Mais pour moi, c'est pas le meneur de banc comme a dit Azad, hein, c'est pas le sixième homme comme était Malcolm Brogdon. Enfin, on va pas rentrer dans les débats de Malcolm Brogdon, mais c'est pas ce profil-là. Mais pour moi, il remplit son rôle et après 14 trade requests en 2 ans, c'est quand même assez drôle qu'au final, il soit toujours là et qu'il joue tous les matchs et qu'il nous convienne assez bien au final.
Bon, bon. Au final, c'est un rôle qu'il a fini par accepter et je me demande. Tu vois l'impact du contrat là-dedans.
Bah, il avait pas l'assurance, quoi. Il savait pas s'il jouait, donc forcément, c'est difficile.
Ouais. Et alors que là, maintenant, il a l'assurance de jouer et en plus, il a l'assurance du contrat, donc il est pas obligé de surjouer pour son contrat. C'est-à-dire qu'il a l'assurance qu'il va jouer et que même s'il joue pas, il lui reste 5 années de contrat en NBA, donc il a entre guillemets de quoi se retrouver potentiellement une autre équipe ou quelque chose comme ça. En gros, il est quasiment sûr d'être en NBA pour les 5 prochaines années. Donc c'est peut-être plus facile d'accepter un rôle un peu plus limité quand t'as rien à prouver entre guillemets pour les 5 prochaines années. Mais défensivement, moi je le trouve bien utilisé dans les systèmes de Mazzulla et qui sait utiliser ses forces. Et pour cacher un peu ses faiblesses, et sa force, c'est d'être très agressif, robuste, et sa faiblesse, c'est d'être très petit. Et du coup, l'utiliser plutôt sur des schémas agressifs dans les moments nécessaires, plutôt que laisser l'attaque venir à lui. Et comme Butler l'avait fait sur les quelques minutes où il avait joué contre Miami, où en fait, en laissant du switch all un peu de soft switch, et ben en fait, tu laisses un peu la main à l'attaque et tu te fais avoir. Alors que Pritchard, c'est un joueur agressif qu'il faut utiliser plutôt pour le faire attaquer la défense plutôt que laisser l'attaque venir à lui.
Je veux revenir sur ce que tu as dit sur les contrats. Je pense que quand tu es une équipe qui veut gagner, que les mecs n'aient pas à jouer pour leur contrat ou pour des trucs personnels, mais c'est capital. L'année dernière, le seul cas, et à l'intersaison, on en avait parlé et tout, qui a finalement pas posé problème mais posé question, c'est Grant Williams qui avait un contrat à aller chercher. Et pendant l'année, il a pu jouer, machin. Que les mecs soient là sur le long terme, qu'ils aient qu'à penser à dire, faut gagner, on va chercher la bague, c'est capital. Je pense que c'est vraiment sous-estimé. Et je pense surtout pour des équipes qui jouent la gagne, quoi, tout simplement. C'est que les mecs n'aient pas d'autres questions à se poser, ça me paraît, surtout sur des mecs que tu veux responsabiliser, ça me paraît capital. Tu vois, il aurait pas son contrat, il aurait pas son contrat de garantie, je suis quasiment sûr qu'il joue pas de la même manière. Il force le truc, il shooterait plus. C'est vraiment, ça me paraît super intéressant, ça, tu vois, comme truc.
Ok, bon, bah on a bien parlé de Pritchard, je pense que on peut passer au, au menu principal, au plat de résistance, hein, parce qu'on ne va pas non plus parler que des roleplayers. On est là pour parler des Jays, donc enfin, d'un Jay en l'occurrence. Azal, je te lance sur Jason Tatum. On ne le présente pas. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur lui? Beaucoup, j'imagine, mais tu as sélectionné quelques aspects de son jeu.
En fait, je me demande s'il a beaucoup évolué par rapport à l'année dernière. Et en fait, je me rends compte qu'il joue déjà depuis 7 saisons. Et en fait, là, c'est un peu... Je trouve que c'est peut-être l'année où ça a moins bougé d'une année sur l'autre. Alors que Brown, tu vois, ils en parlent très bien, les gars, mais on observe un peu plus de changements. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est l'équipe autour de lui qui a changé. Mais en fait, c'est comme s'il était resté... il était devenu vraiment... il a cristallisé l'équipe autour de lui. C'est devenu vraiment lui le joueur qu'on met le plus en avant. Et en fait, c'est plutôt tout autour de lui qui a changé. Mais en fait, quand tu regardes les stats d'une année sur l'autre, il prend autant de tirs au cercle, il prend autant de tirs à 3 points, il a à peu près les mêmes réussites, il a à peu près la même efficacité partout. C'est assez bluffant même que c'est si peu changé que ça. Il y a des choses sur lesquelles c'est dommage, parce que on n'a pas beaucoup plus de drive, on a toujours autant d'isolation. Et puis, il est toujours aussi peu performant, entre guillemets, sur les isolations. C'est vrai que c'est... Enfin, sur les isolations, il est... excuse-moi, sur les isolations, il est plutôt bon. C'est sur le pull-up qui galère. Les isolations, justement, parce qu'il a cette force de drive, il s'en sort encore très bien. Et parmi les joueurs qui font plus de 3 isolations par match, c'est un des meilleurs performeurs. Mais là où, par contre, il y a toujours du mal un petit peu, et on n'a toujours pas réglé ce problème, et c'est un peu le problème de la carrière Tatum, c'est le pull-up. En 2020, il avait un peu ouvert ce truc-là de, en fait, c'est un joueur de pull-up à 3 points, et quand tu es un joueur de pull-up à 3 points, c'est comme si tu ouvrais un petit peu la boîte de Pandore des possibilités en attaque. Et en réalité, il a toujours du mal à maintenir un peu l'efficacité qu'il avait eu les années de bulle et les années sans public. Et là, cette année, je crois qu'il était aux alentours des 29% pendant un moment à 3 points sur le pull-up. Là, il est passé à 33%, donc c'est pas mal. Mais en fait, il en prend 6 par match des pull-up, donc c'est énorme. Il prend seulement 2,5 catch and shoot par match pour 6 pull-up par match, donc c'est vraiment... une grosse part de son jeu, et quand ça se casse la gueule niveau efficacité, ça se ressent directement dans les stats et dans les résultats de l'équipe. S'il y a un gros changement à souligner, c'est son utilisation au post-up, à la finition et à la création. Donc en fait, le post-up, c'est un outil de finition pour punir des mismatchs, par exemple, ou pour tout simplement des joueurs qui sont à l'aise sur cette zone de tir qui est le short mid ou le mid-distance de haut panier. Et Tatum est le troisième joueur le plus efficace de la NBA sur les joueurs qui prennent plus de 2 possessions par match sur post-up. Il est derrière Kristaps Porzingis, et qui est le premier, et Karl-Anthony Towns, mais il est plus efficace que Joel Embiid, qu'en prend 2 fois plus, mais il est plus efficace que Joel Embiid là-dessus, plus efficace que DeMar DeRozan, qui est aussi un arrière qui utilise ça pas mal, qu'un Siakam, qu'un Randle. C'est vraiment élite. Il a 1,2 points par possession sur post-up. C'est vraiment très, très bon. Et en plus de la finition sur post-up, il est très bon à la création sur post-up. En fait, le post-up, c'est un moyen de générer de l'attaque, parce que tu vas souvent attirer un deuxième défenseur. Et vu que Tatum, il a énormément progressé sur sur l'attaque quand il subit une prise à 2, et c'est un bon moyen de générer, en fait, d'utiliser son playmaking via du post-up. Donc c'est un petit peu la différence principale que je verrais cette saison, mais j'en vois pas beaucoup d'autres, et je sais pas si Vince, lui, en avait vu.
J'étais en train de vous envoyer mes notes, j'ai exactement tout pareil. poste à plus de 2 possessions ISO, plus de 3 possessions et tout. C'est assez marrant comme on. Ouais, il est assez facile à lire, Tatum, finalement. On a quand même les yeux sur lui depuis un petit paquet d'années maintenant. Et ce qui me frustre un petit peu, c'est que, franchement, le mec est excellent. Le mec est tout le temps là. Le mec défend fort. A un discours que j'adore. À base de les distinctions individuelles, j'en ai eu, c'est bon, maintenant ce que je veux c'est ramener une bague et tout. Mais le problème, c'est que théoriquement il est pour une équipe qui veut jouer le titre, c'est celui qui doit nous y amener. C'est le fameux top 5 NBA, top 7 NBA, top 10 NBA. Et qu'on a cette sensation que, ben, il n'y est pas tout à fait. Il doit être 6, 7, 8, 9. Et en fait, c'est la petite frustration. C'est du mec qui, peut-être que là, il est peut-être un premier plafond, qui est déjà exceptionnel. Mais effectivement, comme tu disais, le fameux pull-up, là, pour l'instant, qui est à 32, enfin, un peu moins de 33%, alors qu'il est monstrueux en catch and shoot. Donc, j'aimerais bien, moi, personnellement, un petit rééquilibrage. Parce qu'en plus, ce mec-là a un profil de superstar, de super two-way player. Ouais. Bon partout, excellent partout. Il n'est pas top 2 NBA dans une catégorie, j'ai envie de dire. Mis à part le fait d'être top 5 dans plein de catégories. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est voilà. Et donc, c'est pas un génie de la passe. Il évolue pas énormément en playmaking. Mais je pense qu'on lui demande pas trop, en fait, là, en ce moment. Voilà. Et donc, du coup, surtout, sa qualité principale, ça devrait être le scoring. Et le problème, c'est qu'il y est très bon, mais pas du tout au niveau d'Endurance, par exemple, avec qui on l'a comparé. Donc, c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'on se dit, ben, le mec, franchement, il fait tout bien. Je pense qu'il est au top de ce qu'il peut faire en termes de travail, d'investissement et tout. Mais on ne sait pas si ça va suffire, en fait. C'est ça qui nous frustre un petit peu, en fait. Parce que moi, j'ai rien à lui reprocher, mais je constate quand même un plafond. C'est horrible hein, de dire ça. Le mec, c'est un des meilleurs joueurs de la planète depuis des années. Mais voilà, on se dit, je ne sais pas, en ce moment, je vois Shai Gilgeous-Alexander qui a l'air inarrêtable en allant sur du mid-range ou au panier, ou qui est excellent pour aller chercher des lancers francs et tout. T'as tout, mais très bon partout, excellent partout, il est élite nulle part. Enfin, élite. Il n'est pas ultra élite dans un domaine. Donc, j'espère que ce côté polyvalent suffira à nous amener au titre. Mais il y a cette petite frustration, des choix notamment. Et vraiment, ouais, les pull-up à 3 points, un petit peu moins. Plus de drive. Là, cette année, l'année dernière, il était à 11,2 drives par match. On est passé à 8,6. C'est un des trucs, c'est un peu frustrant qu'il y en ait moins. Sachant qu'il y est extrêmement efficace en plus sur drive. Son efficacité, elle est vraiment excellente. Donc pourquoi pas plus? En plus, ça fait tomber des fautes, ça fait aller chercher des lancers francs. Donc voilà. Et donc c'est un peu bizarre en fait mon sentiment sur Tatum. En fait, le mec, j'ai rien à lui reprocher, mais je me demande si ça va suffire ce qu'il est pour ce que nous on veut.
Ouais, mais je suis d'accord. Il y a peut-être un petit truc qu'on peut lui reprocher, c'est sa manière de jouer le pick and roll. Qui est vraiment parmi, en tout cas au scoring, parmi les pires joueurs quand on joue autant. Sur pick and roll, il est parmi les joueurs qu'on joue plus de 6 par match en tant que porteur de balle. Comme mec moins efficace que lui, il y a seulement Scoot Anderson, Anfernee Simmons et Banchero. Sinon, tout le reste de la ligue qui joue plus de 6 pick and roll par match comme porteur de balle est plus efficace que Tatum. Quand tu vois le spacing dans lequel il opère, et les screeners qu'il peut avoir, c'est un peu dommage. Donc bon, là-dessus, c'est peut-être un truc qu'on pourrait lui reprocher. Mais sinon, moi, ce que j'aime quand même beaucoup, et ce qui fait qu'il a été dans des équipes qui gagnent autant en play-off, c'est qu'il est quand même capable de s'adapter à différents schémas défensifs. Et c'est vrai que c'est quand même rare d'avoir un joueur qui peut, avec un tel volume, quand même jouer off-ball, de jouer le porteur d'écran ou parfois d'attendre dans un corner pour finalement aller au cut. Et je pense que c'est pas si grave que ça, que ce soit pas un top 5 NBA. Et en fait, souvent on dit que il faut un top 5 NBA pour gagner un titre dans la grande ligue. Peut-être que l'équipe de Boston, le collectif de Boston cette année, comme l'année dernière et en 2022 même, je pense que les collectifs sont tellement bons qu'un top 10 suffit. Si forcément la balle tombe du bon côté. Mais l'année dernière, Tatum, il n'est pas top 5 de la ligue non plus. Et on passe à le fait qu'il ne se tord pas la cheville, peut-être de gagner le Game 7 contre Miami. La saison d'avant, si Curry, il prend pas feu et que nous, on se met à un petit peu être au bout du rouleau parce qu'on a enchaîné trop de Game 7. Potentiellement, en fait, Tatum, il a déjà joué 2 finales et il en a gagné une sans jamais avoir été un top 5. Parce qu'en réalité, les gens auraient potentiellement changé d'avis et lui auraient décerné l'étiquette de top 5 NBA parce qu'il aurait gagné le titre, mais c'est se baser sur des résultats collectifs alors que le joueur est concrètement le même. C'est pas parce que tu gagnes un match NBA un titre NBA que tu deviens un winner. Ça, déjà, c'est un terme qui est un peu bizarre. Et le truc, c'est qu'il n'est peut-être pas top 5 NBA, mais les effectifs des Celtics depuis 5 ans, enfin depuis 3 ans, je veux dire, ils n'ont pas vraiment besoin d'un top 5 NBA pour aller jusqu'où ils vont. Et ils sont passés quand même plusieurs fois pas loin du titre sans avoir ce joueur-là. Donc pour moi, ce n'est pas très grave qu'il ne soit pas top 5 NBA parce qu'il est tellement fonctionnel dans cette équipe qui allie beaucoup de talents offensifs et défensifs. Et ce qui fait sa force, c'est surtout qu'il est très modulable, on-ball, off-ball, sur plein de différents systèmes en attaque comme en défense. Et c'est ça pour moi qui fait sa force. Donc je suis pas trop inquiet. J'ai juste pas envie qu'il se blesse parce qu'il joue encore plus de 36 minutes par match cette saison, comme l'année dernière. Et ça commence à faire beaucoup de minutes mises sur ses grosses épaules.
Ouais.
Okay, vas-y Vincent, pardon.
Ouais, non, juste pour et parce que j'ai dit un peu des choses négatives, mais par contre, je suis ravi d'avoir un mec comme ça en leader. Je le trouve vraiment. Par contre, sur une vraie évolution de l'homme, je pense, et de savoir ce qu'il veut et de ce qu'il transmet, je trouve que c'est vraiment cool à voir. Par contre, autant le basketteur, je pense que voilà, on a pas sa version finale, mais on a une version quand même bien accomplie quand même du joueur. L'homme est vraiment en train de grandir et franchement, il n'y a pas de frasque. Le mec, t'as envie de le suivre, quoi, vraiment, au niveau de l'exemplarité sur le terrain. Le fait qu'il veuille tout le temps jouer, parce que c'est une vraie volonté de sa part, déjà, ça dénote de certaines choses, quand même, je trouve. Donc, c'est assez cool de ce point de vue. Humainement, je pense que c'est assez cool de l'avoir en leader.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, en fait, hein, c'est que, personnellement, je suis complètement d'accord avec Azal, j'avais un peu déjà tiré cette conclusion. À la sortie des finales qu'on perd, en fait, je me disais que je pense pas que Tatum peut avoir un pic de niveau aussi haut que celui d'un Steph Curry, d'un Jokic ou d'un mec comme ça qui ou un Giannis qui font gagner des titres presque à eux seuls, enfin, bien sûr pas à eux seuls, mais que leur propre niveau permet de d'élever une équipe.
Giannis, il a gagné un titre grâce aux blessures de la ligue aussi. Hein.
Oui, mais c'est un autre débat. Il était quand même à un niveau individuel assez remarquable, surtout en play-off, surtout sur un genou en finale. C'était quand même assez remarquable ce qu'il faisait. Mais bref, mais là où on en revient toujours à Brad Stevens et à l'équipe, c'est qu'en fait, je le trouve relativement parfait pour l'équipe qu'il a autour de lui. C'est-à-dire que, comme tu dis, Azad, il arrive très bien à s'adapter. Il arrive très bien à prendre le relais entre les matchs où il est complètement facilitateur, c'est-à-dire que bon, bien sûr, il prend ses tirs et tout ça, mais il arrive à prendre un peu du recul. Et les matchs comme hier contre les Wolves, on a besoin de lui qu'il soit agressif, qu'il soit scoring, qu'il soit aussi important en défense sur les meilleurs joueurs. Je trouve qu'il arrive beaucoup mieux qu'avant à équilibrer un peu ces phases-là. C'est évidemment dû aussi à tous les joueurs autour de lui qui sont meilleurs qu'ils n'ont jamais été. Hein. Il a jamais eu une aussi bonne équipe et je pense pas être fou en disant que ça m'étonnerait qu'il en ait une meilleure dans le futur dans sa carrière, mais donc pour moi c'est un peu comme tu dis Azad, c'est peut-être le 8e ou 10e meilleur joueur de la ligue, mais comme on a que des mecs qui sont top 75 de la ligue dans notre 5 de départ, ça peut suffire et comme c'est un profil d'ailier qui défend quand même à un niveau remarquable, hein, on ball, off ball, je pense que ça peut suffire pour nous mener un titre. Et comme tu dis, Vincent, aussi, je suis d'accord avec le fait que c'est rare de voir des mecs aussi intelligents à cet âge-là. Enfin, à cet âge-là, il est plus tout jeune, mais bon, il a l'expérience grâce à l'équipe qu'il a eue. Et je pense, moi, je suis positif sur le fait que si un joueur peut nous amener le titre, c'est lui et pas quelqu'un d'autre. On va passer donc au peut-être deuxième joueur le plus important. Non, je vais pas refaire la blague, pardon. Azvi Mikhailuk. comme Lamar Stevens, hein, je sais pas si vous avez quelque chose à dire, on le voit un peu plus que Stevens, mais pas non plus beaucoup. Je me suis un peu entraîné à dire son nom, donc ce serait bien qu'on ait quelque chose à dire pour pas que je me sois entraîné pour rien.
Il rentre pas. Tu veux y aller, Vincent ?
Ouais, j'y vais.
Vas-y.
Il rentre pas un tir, le pauvre. C'est catastrophique. C'est tout. J'ai rien noté de plus, c'est cata.
Il est à quoi? Ah ouais, en même temps, il a pris 11-3 points sur la saison, quoi. C'est difficile de dire un truc d'un mec qui a pris que 11-3 points sur une saison alors qu'il est censé faire que ça. Il en a mis 4. Bon, c'est pas beaucoup. Mais ouais, c'est vrai que même. Tu vois, il a pas assez. Il a pas d'upside un petit peu de qu'est-ce qu'il apporte vraiment dans la balance en plus que Sam Hauser, par exemple, avec qui il pourrait être un petit peu en compétition. En vrai, il sert à quoi, à part si Sam Hauser il est malade et qu'on ne peut pas faire jouer Brissett non plus. Je pense qu'au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure des matchs, c'est plutôt Oshie Brissett qui a gagné sa place un petit peu de joueur joker. Et je pense que les gars de la deuxième partie de l'épisode pourront en parler. Donc voilà, moi, c'est comme Lamar Stevens, c'est un mec qui a perdu la bataille du joueur joker.
Et je pense qu'il a, peut-être un problème, je sais pas, on l'a tellement peu vu, mais je pense que ces joueurs de bout de banc, il te faut une spécialité, il te faut être excellent dans un domaine. Hauser l'est, Brissett a trouvé des minutes, j'imagine, par son fighting spirit, sa défense, mais ça, ils en parleront effectivement mieux que nous. Mais je pense que du coup, le peu qu'on a vu, bah, on a vu certainement un excellent joueur de basket, mais dans une équipe aussi compétitive, il n'est pas ressorti du lot, en fait, tout simplement. Et effectivement, je pense qu'à la base, c'est un super shooter. C'est vrai que c'est des mecs qu'on va leur donner une ou deux chances. S'ils prennent feu à ce moment-là, ils peuvent éventuellement aller gratter quelque chose. Et sinon, mais c'est super compliqué. Ça fait une saison un peu longue pour lui, j'imagine.
Ouais, bon, bah, effectivement, rien à dire sur lui. Juste petite dédicace à Hugo qui au début de saison était persuadé qu'il prendrait la place de Sam Hauser dans la rotation. Voilà, pour le coup, on peut dire que tu t'es trompé, Hugo. Mais bon, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde. Oui, bon, j'ai rien à dire sur lui, je pense que, qu'est-ce que je peux dire, il a l'air sympathique, hein, de ce que je vois de lui dans les vidéos et sur le banc, il a pas l'air énervé de sa situation ou de son rôle, donc c'est déjà pas mal. Je pense qu'il restera pas très longtemps dans l'équipe, hein, c'est juste un contrat, quoi, concrètement. Voilà.
C'est juste un contrat.
C'est juste un contrat, c'est des chiffres sur un cahier de Mike Zaren. On rigole, mais c'est un peu le cas quand même. Voilà, donc... c'est dommage, hein, parce que, je pense que c'est le genre de joueur qui pourrait avoir un rôle dans une équipe qui joue moins et qui lui laisse plus de temps. C'est juste pas le cas, il n'est pas dans la bonne équipe pour ça et peut-être qu'on le reverra autre part plus tard, mais là pour l'instant c'est pas trop le moment où l'équipe pour lui, on va dire.
Il ne serait pas potentiellement une star d'Euroleague par exemple comme joueur?
Je suis même pas sûr, hein. Physiquement il est pas très impressionnant, donc je sais pas s'il pourrait tenir, enfin je sais pas. Je regarde pas assez l'Euroleague et je l'ai pas assez regardé dans sa carrière pour pouvoir
mais
vraiment.
L'équipe des spécialistes de l'Euroleague.
Non, faudrait plutôt demander Hugo ça. Bref, le dernier joueur pour nous ce soir, le vétéran de l'équipe, le monsieur, le vieux, hein, je peux le dire, attention.
C'est bon, bien compris.
C'est Vince.
Non, Al Horford, hein, vous avez bien compris de qui on parlait, qui est toujours là, toujours debout, qui a pris sa place sur le banc après l'arrivée de Porzingis cet été, qui a l'air de le vivre plus ou moins bien. Je pense que ça reste difficile mentalement à prendre à ce stade-là de sa carrière, mais il le fait avec un professionnalisme assez remarquable. Donc pour ça, chapeau. Qu'est-ce que vous avez à dire sur lui, les gars?
J'y vais. C'est mon déclin physique, c'est pareil. Moi, je pense qu'avec Horford, j'ai envie d'avoir deux grilles de lecture. C'est-à-dire que la première moitié de saison d'Al Horford, par rapport, si on la met en relation avec sa carrière et les dernières années qu'il nous a fait, ben, on est sur un déclin physique qui est clair et net. Ça se voit, mais moi, j'ai pas envie de lui en vouloir, en fait, parce que ma grille de lecture, elle est pas forcément sur le Al Horford en carrière. Elle est sur le Al Horford de cette année, donc c'est-à-dire un sixième homme, pivot remplaçant, et qui n'est plus payé que 10 millions d'euros de dollars par an. Et donc en fait, c'est vraiment pour moi un statut et un rôle qui a changé. Et finalement, en pivot backup, bah, je trouve qu'il fait le taf. Alors oui, il est ciblé défensivement, oui, il a une baisse de protection du panier qui devient, ben là on est, je pense, sur la réserve. Il arrive encore à protéger un tout petit peu le panier, mais ça baisse d'année en année, et là on est sur la jante, hein, clairement. Mais à côté de ça, ça reste un excellent connecteur, toujours à faire vivre le ballon, très bon spot-up shooter, ça shoot encore très bien cette année, et pas horriblement négatif en défense, et je pense en fait il le sera jamais, ne serait-ce que par son placement et tout, et son intelligence de jeu. Donc au final, si on le met effectivement à l'échelle de sa carrière, ben oui, on est sur un gros déclin, on est sur un Horford qui devient un joueur lambda, et donc ça nous fait un peu de peine. Mais d'un autre côté, je suis ravi de l'avoir en sortie de banc. Quand Porzingis n'est pas là, on l'a encore vu cette nuit, ça tient la baraque, en fait, tout simplement. Et Pépère, il a joué combien? Il a joué 38 minutes cette nuit. Et je trouve qu'il fait quand même bien le boulot. parmi les pivots backup de la ligue, et ben, je ne sais pas s'il y en a 7 de meilleurs que lui, 6 de meilleurs que lui, je ne pense pas. Donc voilà, cette histoire de grille de lecture, ça me tient à cœur parce que tu en as parlé, l'acceptation du changement de rôle, l'importance dans le vestiaire, ben juste Jason Tatum, il en parle tous les ans. Tous les ans, il dit que c'est son meilleur coéquipier, que c'est un exemple, que tout ça. En fait, ça en fait d'Al Horford toujours un de mes joueurs préférés. Et je suis content qu'il soit toujours là et je pense qu'il rendra encore service en playoff. Malgré, clairement, une baisse du niveau, et c'est presque rassurant, c'est normal.
Est-ce qu'ils vont le trade?
Ben, ça me ferait de la peine. Ben, si tu le trades,
je pense pas que ce soit. Je pense que c'est pas impossible, effectivement. Le contrat est intéressant et il a encore de la valeur pour certaines équipes. Je pense que si ça peut arriver. Après, ça ferait mal, effectivement.
Vous pensez qu'on pourrait en tirer un joueur qui t'assure autant un niveau plancher en playoff? Déjà, au shooting pour le 5 out, tu trouveras pas bien meilleur que lui. Sur le côté connecteur et tout, il a encore. Enfin, vraiment, ça fait vivre le ballon, quoi. Je veux dire, quand Horford est sur le terrain, il se passe pas de mauvaises choses dans l'attaque.
Poste pour poste, quasiment même salaire, j'aurais dit Wendell Carter Jr. Je crois qu'il gagne pas beaucoup plus que notre ami Horford. Mais bon, maintenant qu'ils sont entre guillemets compétitifs chez nos amis d'Orlando, ça va être un peu plus compliqué d'arriver à négocier ça. Sinon, non, pas forcément dans le même rôle. Hein. C'est sûr que ce serait assez difficile. Mais en fait, je suis vraiment plus convaincu de ses capacités défensives. Et j'ai vraiment peur qu'il soit attaqué sur beaucoup de switch. Déjà l'année dernière, ça avait été vachement problématique contre les Hawks, où il avait été vraiment attaqué de manière constante par nos amis les Trae Young et DeJounte Murray. Mais d'un autre côté, je me dis au final, c'est pas très très grave parce qu'il va pas jouer les fins de match, ou alors seulement quand on aura besoin et qu'il sera pas attaquable. Donc c'est vrai que en sixième homme, c'est moins grave, mais il y a quand même un sacré déclin cette saison comparé à l'année dernière. Je trouve que ça se voit vraiment beaucoup. Et ça va qu'en attaque, pour l'instant, il rentre ses tirs. J'espère qu'il n'aura pas le même coup de froid qu'il a eu en playoff l'année dernière pendant les playoffs cette année. Mais bon, ça reste quand même un très bon connecteur, comme tu l'as dit. Vraiment, le ballon vit quand il est sur le terrain et tu peux lui passer la balle, tu sais qu'il se passera quelque chose de bien. C'est pas un mec qui va arrêter le flow de l'attaque, au contraire, il va soit optimiser les décalages, soit il va pouvoir finir. Puis la valeur dans le vestiaire, je sais pas à quel point Stevens serait capable de trader celui que Tatum a encore appelé la semaine dernière le meilleur coéquipier qu'il a eu de sa carrière.
Ouais, effectivement, j'ai du mal à y croire. Enfin, je veux dire, j'ai du mal à trouver le profil qui ferait qu'on pourrait appuyer sur le bouton de trade. C'est juste que, en termes de contrat, c'est le seul en fait qui me paraît échangeable pour avoir un mec un contrat à peu près moyen tiers, on va dire. Voilà, je pense que vous avez tout dit. Moi, juste pour Al Horford, effectivement, je pense qu'on devrait un peu le mettre au frigo, c'est-à-dire le garder pour les match-up défensifs qu'il a l'air d'aimer, hein, donc Embiid et Yanis, hein, c'est pas rien. Donc écoute, s'il veut tout donner sur ces matchs-là et ces séries de playoffs-là et un peu se reposer avant, hein, c'est vrai que j'ai pas forcément envie de le voir jouer en switch all contre les Hawks de Trae Young au premier tour. Oh, ça m'a pas fait plaisir l'année dernière, je sais que ça va pas me faire plaisir cette année. Ouais. Si on peut éviter ça, voilà.
Après, vous en parliez, et l'année dernière, il avait quand même surtout un rôle très différent. C'était le pivot titulaire, quoi. Donc, c'était le mec qui devait jouer 35 minutes, 36 minutes en playoff. Là, théoriquement, il va moins jouer contre les fameux Trae Young et tout. Il sera surtout, à mon avis, sur les minutes où, justement, des guards comme ça ne sont pas sur le terrain, quoi. Enfin, moins sur le terrain. Donc, j'ai vraiment ce côté où là cette année je pense qu'il a dû baisser ses minutes jouées par match de 5, 6, 7, 8 dans ces zones-là peut-être, donc on est vraiment sur un autre rôle et cette fiabilité pareil pour une équipe qui joue le titre, la fiabilité d'un Horford, pour moi on aura du mal à la retrouver par trade. En fait, je pense pas qu'on ait un mec plus fiable, on aura peut-être un mec meilleur. Mais est-ce que moi, quand il est sur le terrain, j'ai pas horriblement peur? Alors peut-être sur des séries de playoffs, je changerai peut-être de discours. Mais tout là, Porzingis rate un nombre de matchs certains, on va le dire. Et j'ai rarement peur de ce qui se passe en fait. Alors oui, notre défense est moins impactante, mais je sais pas, j'ai une certaine sérénité quand même de jamais catastrophique. Il n'est jamais cata hors forme.
Ouais, bah c'est une bonne manière de conclure sur notre papa sportif. Vous avez quelque chose à rajouter, les gars, sur un truc, sur un joueur qu'on a oublié, quelque chose?
Non, non, je trouve qu'on a fait un bon tour. Il y a vraiment le sentiment que on a notre rotation qui est très bien définie et que du coup des mecs comme Lamar Stevens, ils n'ont pas de minutes à aller gratter quoi. Donc c'est quand même bon signe. Pour l'instant, on a évité les blessures. Donc là, je touche du bois vraiment fort. Je m'agrippe à mon bureau en bois pour que ça continue. Mais je trouve qu'ils sont intelligemment. Ils tirent pas trop sur la corde avec Porzingis et avec Horford. Et s'ils arrivent à bien les protéger et qu'ils arrivent en forme en playoff, on y croit. Hein. De toute façon, moi, j'y croyais déjà fort au début de enfin, avant que la saison commence, j'y crois toujours.
Ok, c'est très positif. Moi, je suis d'accord avec toi. J'y ai jamais autant cru, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est quand même un bon signe.
Peut-être un peu trop.
Peut-être un peu trop. Non, je suis pas non plus.
Non, mais moi j'ai peur du malheur en fait.
Ouais, non, moi ça va. Je sais tempérer mes attentes, mais je sais pas. En termes de notre équipe à nous et la concurrence, c'est ce que je disais. J'ai l'impression on est quand même sur une bonne année potentiellement. Voilà. Hein, on peut s'arrêter là. Merci à tous et toutes de nous avoir écoutés ce soir. Enfin, ce soir, on est le soir, mais je sais pas quand vous écoutez ça. Surtout, restez bien branchés parce que l'épisode 2 arrivera incessamment sous peu. Vous pourrez entendre un autre trio hein, composé de Hugo, Titouan et Johan. Et vous pourrez notamment entendre un magnifique segment de Hugo sur Jaylen Brown qui va peut-être vous surprendre. Hein, attention, on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne va pas trop vous spoiler, mais ça risque d'être plaisant à écouter. Voilà, et surtout, donc, vous faites le calcul. Hein, tous les joueurs dont on n'a pas parlé, ils seront abordés plus ou moins longuement sur le prochain épisode. Donc sur ce, merci les gars.
Merci les gars, salut.
Bah, merci à toi.
Et puis on se dit à bientôt pour un nouvel épisode du coup. Salut, salut.
Ciao.
Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jack.